Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de la famille Robineau. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll. Un document de Richard Vargas, rédactrice en chef Isabelle Clairac. Bonne écoute.
Six mois après le crime, le 20 janvier 2015, quatre des six membres de la famille Robineau se retrouvent donc sous bonne garde. Et le père a réponse à tout.
Le maréchal des logis-chefs David Errandonea participe aux interrogatoires.
Hervé Robineau reste sur la même ligne de défense en disant qu'il n'a rien à voir avec le décès de Madame Benaïm. Et il nous explique au début, calmement, je dirais même de façon un peu arrogante, qu'il a dormi toute la nuit et que personne n'a quitté la maison.
Et quid de ce clair de lune et de son goût exquis? C'était pas un message codé, ça? Pas du tout, répond Hervé.
L'adjudant Stéphanoudic est présent, lui aussi.
Il nous déclare que ça lui arrive régulièrement avec son épouse d'aller se promener par temps de lune et même d'avoir des relations sexuelles à l'extérieur pendant ces périodes de lune.
Hervé Robineau reconnaît qu'il a eu des mots très durs pour Bernadette, mais il ne l'a pas tuée. De leur côté, Pascal et ses filles tiennent bon aussi. Pendant 24 heures, c'est la même chanson. Elles n'ont pas bougé de la maison ce soir-là.
Roxane apparaît sûre d'elle lors de la garde à vue, en tout cas au début. Elle nie tout en bloc, elle est assez désinvolte en fait.
Les gendarmes abattent leurs cartes. Les voitures vandalisées, les menaces à Bernadette, ils savent que c'est elle. Mais Roxane ne se dégonfle pas.
Effectivement, elle y est allée, mais une fois sur place, elle a constaté que quelqu'un avant elle avait commis des dégradations. Concernant les menaces proférées par téléphone, elle va jusqu'à dire que c'est peut-être son téléphone, mais que ce n'est peut-être pas elle qui parlait. On a vraiment l'impression qu'elle se fout de nous.
Mais les gendarmes ne s'inquiètent pas, ils ont encore des billes. Après une première nuit en cellule, ils reprennent la plus jeune, Audrey. Ils lui présentent les selfies réalisées à 3h du matin dans la chambre de ses parents. Là, elle ne peut plus dire que son père dormait. Cette fois, la gamine est incapable de se justifier. Elle va tout avouer. Le 28 juillet, elle est rentrée chez elle à 1h du matin. Elle a traîné un peu avant d'aller se coucher et dans la nuit, elle a entendu un bruit en bas.
Elle est descendue de sa chambre et elle a trouvé ses parents ainsi que sa sœur Roxane en pleine discussion. Elle a constaté que son père et sa sœur étaient vêtus de noir.
Audrey comprend alors que Roxane et son père se préparent pour partir aux Issambres, chez Bernadette.
Son père va lui demander d'utiliser son téléphone à lui afin qu'elle réalise des selfies.
Pour prouver quoi ? Que elle est restée à la maison cette nuit-là? Bizarrement, il pense à fournir un alibi à sa cadette, tandis qu'il emmène son aîné sur une scène de crime.
1h30 après, Hervé Robineau et Roxane Robineau reviennent au domicile. Roxane est en pleurs et Hervé Robineau est en boucle et dit sans cesse « ça a merdé, ça a merdé, ça a merdé ». Audrey constate que son père porte des traces rougeâtres sur son pantalon au niveau des genoux. Il se rend dans la salle de bain afin de se doucher, comme fait également Roxane, et se changer.
Et les voilà repartis pour se débarrasser de leurs vêtements et du couteau qui a servi à égorger Bernadette. Un couteau cranté qu'Audrey dessine aux gendarmes.
Ils reviennent au domicile et là, un conseil de famille est organisé. Audrey raconte que la version donnée par son père, Ils avaient mis du feu à deux extrémités de la maison pour la faire sortir. Mais Bernadette serait sortie par la baie vitrée. Elle serait tombée nez à nez avec son père, qui n'aurait eu d'autre choix que de la saisir et de l'égorger. Elle précise également que Roxane aurait infligé un dernier coup de couteau dans le buste de la victime.
La procureure Stéphanie Félix.
Et lors de ce conseil de famille, Hervé demande à tout le monde de s'en tenir à une seule et unique version selon laquelle il dormait. Il fallait surtout pas craquer. Quoi que disent les enquêteurs, même si on leur disait que l'un d'entre eux avait d'ores et déjà craqué, il fallait s'en tenir à une seule version.
Les gendarmes ont ce qu'ils voulaient. Après les aveux d'Audrey, ça va être plus dur pour Hervé, Pascal et Roxane.
Hervé Robineau va minimiser ce qui s'est passé en disant qu'il a vu une ombre, qu'il a été surpris et qu'il a planté cette ombre sans savoir en fait à qui il avait affaire. Roxane n'a rien fait, il est le seul responsable.
Ce sont des aveux à minima, mais qu'il refuse de signer. Il va jusqu'à se dissimuler derrière sa veste qui le ferme jusqu'en haut.
Poussé dans ses retranchements, Hervé Robineau fait alors un malaise qui le conduit à l'hôpital. Pendant qu'Hervé se confiait aux gendarmes, sa fille aînée est aussi passée aux aveux. Le pacte de silence des Robineau a explosé, car la version de Roxane diffère sensiblement de celle d'Audrey.
Roxane explique que ce soir-là, elle accompagne son père. Il s'agissait de faire peur à Bernadette. Elle indique qu'elle ignore qu'il était porteur d'un couteau.
Une fois sur place, Hervé Robineau demande à sa fille d'aller allumer un petit feu au niveau du dressing qui se trouve du côté du parking. Et lui, pendant ce temps-là, va de l'autre côté effectuer la même chose.
Pendant que Roxane tente de faire démarrer son feu, elle entend comme un grand boum qui lui fait peur. La lumière du jardin s'allume. Roxane, en panique, rejoint son père.
Il lui fait signe, pas faire de bruit, de rester comme ça. Ils entendent des pas arriver, des pas de chaussons. Elle voit son père surgir de sa cachette, attraper Madame Benaïm par derrière. Et lui trancher la gorge. Elle, elle est tétanisée, elle dit qu'elle ne peut plus bouger. Son père la prend pour partir, mais constatant que Madame Benaïm est toujours assise, Robineau fait demi-tour et lui inflige un dernier coup de couteau. Elle déclare que pendant tout le trajet, elle n'a fait que pleurer, vomir, qu'elle est choquée par ce qu'elle a vu, voire traumatisée.
Et là aussi, la fin de l'audition tourne presque au malaise.
Elle a comme une crise de panique, elle tremble, elle frotte ses mains contre son pantalon, elle pleure, elle a des spasmes, elle tout lâche. Tous les nerfs lâchent en fait à ce moment-là.
Reste le rôle de la mère que les gendarmes peinent à comprendre.
Pascal Robineau, ça a été très très compliqué car la seule victime de cette histoire, c'est elle. C'est son mari qui lui a fait du mal. Par contre, quand on vient lui parler de ce qui s'est passé ce soir-là, Pascal se renferme sur elle-même. Elle a même du mal à parler. Souvent, elle se recroqueville.
Face aux déclarations de ses filles et de son mari, Pascal Robineau se débine. Elle ne se souvient de rien. Elle n'a pas vu Hervé et Roxane sortir. Elle ne leur a fourni aucune assistance. elle n'a appris la mort de Bernadette qu'à leur retour. Le 22 janvier 2015, Hervé et Roxane sont mis en examen pour assassinat. Pascal, sa femme, pour complicité d'assassinat. Le juge va maintenant essayer de comprendre comment il fonctionne dans cette famille. Des filles soudées autour d'une mère à la santé fragile. Des filles décidées à ramener un père dans le droit chemin. C'est cela, le clan Robineau.
Mademoiselle E, une amie de Roxane, s'en souvient.
La famille Robineau, c'est très particulier. C'est une meute. On est avec les Robineau, on est avec la famille Robineau, quoi. On n'est pas avec l'un ou l'autre, ou, enfin avec la mère ou le père, on est avec la tribu Robineau. Dans la famille, il n'y a pas de hiérarchie. Les parents n'ont pas une place de parents, les enfants n'ont pas une place d'enfant. Il n'y a pas de règles. Il y avait énormément d'amour. C'était très fusionnel. Mais à la fois, c'était le matin, ils étaient unis. L'après-midi, ils se prenaient la tête. Ça criait tout le temps, ça parlait tout le temps. Ils essayaient tous de s'imposer, en fait, à leur manière. Et du coup, bah, c'était tout le temps des rapports de force entre les uns et les autres. C'était vraiment des montagnes russes permanentes, en fait.
Un mode de fonctionnement qui pourrait expliquer l'énergie avec laquelle toute la famille s'est impliquée dans l'affaire Bernadette. Le juge va donc passer en revue, un à un, chaque personnage de ce drame familial.
Sophie Demade est expert psychologue.
Hervé Robineau n'a pas connu son père. Il a grandi auprès de sa mère et de son beau-père. Une mère qu'il décrit comme ayant été peu affectueuse. Et en fait, il aurait énormément manqué d'amour, de tendresse. Et elle, c'est pareil. On peut dire que pour Pascal, il y a un trouble des repères familiaux, affectifs, sociaux. Il faut savoir qu'il y a 6 enfants dans cette fratrie de 3 pères différents. Et elle a une mère qu'elle décrit comme étant très, très particulière, puisque, a priori, sa mère incitait les enfants à voler. Et en fait, elle a l'impression qu'elle rentre dans son histoire personnelle et subjective, lorsqu'elle rencontre Hervé.
Pascal, c'est quelqu'un qui, sous ses aspects de femme un peu faible parce qu'elle a des problèmes de santé, c'est quelqu'un qui est fort psychologiquement et qui est d'ailleurs considéré par les autres membres de la famille comme l'arbre. C'est l'arbre central de la famille. Elle décrit son couple comme une relation formidable, le meilleur des hommes, un mari aimant, attentionné. On se croirait dans un film.
C'est un couple dont les deux partenaires se réparent mutuellement. Se réparent des souffrances de l'enfance ou des manques de l'enfance. Donc c'est un couple qui ne doit pas échouer, qui doit fonctionner vaille que vaille, coûte que coûte.
Pendant 23 ans, Hervé a tout fait pour préserver l'équilibre de ce couple exclusif. Jusqu'à s'oublier lui-même.
C'est ce qu'explique Muriel Gestas, l'avocate d'Hervé Robineau.
Hervé développe pas un charisme important, il n'a pas une personnalité imposante. Enfin, c'est quelqu'un qui est plutôt suiveur. C'est un vrai gentil. On a des clients qui sont accusés d'assassinat ou de meurtre avec une personnalité derrière qui correspond à ça. Et Hervé, non, pas du tout. Pas du tout.
C'est quelqu'un qui est constamment sous pression. Hein. Il veut combler les demandes de sa femme et de ses filles. Il considère que sa femme est fragile. Donc il va faire en sorte que tout aille bien. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va, comment dire, refouler toute une partie de sa personnalité.
Au service du clan, bouffé par sa vie de famille, Hervé a peut-être trouvé tout à coup un peu d'air, mais de légèreté auprès de Bernadette.
Bernadette, c'est elle qui va un peu l'entreprendre. Et puis, sexuellement, Bernadette va l'emmener aussi dans une sexualité qu'il n'avait jamais vécue. Il va découvrir, à son âge, des choses qu'il n'avait jamais faites. Et il va s'éclater. Et de ce fait-là, il va aussi tomber amoureux d'elle.
Mais dans ce couple fusionnel, l'infidélité n'avait pas sa place. Hervé n'a pas su gérer sa faute, son moment de faiblesse, cet affront fait à sa femme et ses filles.
Cette femme, Bernadette, est devenue le mauvais objet qui vient casser, détruire les fondations de cette famille. Et ça monte crescendo. D'abord, il y a la première réaction, c'est la réaction de Pascal, qui est trahi, qui veut en découdre. Et puis après, ses filles. Parce que finalement, toutes les femmes sont trahies dans cette histoire. C'est-à-dire que la trahison perçue par la mère devient la trahison des filles. Donc tout le monde est trahi et ça monte.
L'ami de Roxane confirme.
Roxane et Audrey, c'est devenu des chiens de garde. C'est vraiment devenu des chiens de garde de leur mère où elles allaient fouiner, où elles regardaient dans le téléphone de leur père, elles étaient prêtes à aller le pister pour découvrir le fameux de l'histoire et avoir des réponses pour leur mère, alors que c'était pas à elles d'aller chercher les réponses, quoi.
Si Roxane s'est investie plus que sa sœur dans cette mission de sauvetage, c'est parce qu'elle avait une relation particulière avec chacun de ses parents.
Maître Colline Martin est l'avocate de Roxane.
Roxane avec sa mère, c'est une relation qui est très fusionnelle, qui est impactée par le fait que sa mère est malade et donc on a parfois une sorte d'inversion des rôles, notamment sur les tâches de la maison, sur le fait de s'occuper des plus jeunes sœurs. Par moments, Roxane a le sentiment que c'est elle que ça revient de faire tout ça. Avec son père, c'est quelqu'un dont elle va chercher la reconnaissance ou l'estime. Elle va même travailler avec lui sur les chantiers parce qu'elle sent que c'est ce qu'il attend d'elle.
Les experts psychologues, psychiatres qui l'ont examiné vont indiquer que Roxane, c'est quelqu'un qui n'a pas bien géré son complexe d'Oedipe.
Une famille dysfonctionnelle, passionnelle, et exclusive. C'est sur ce terreau que Bernadette est tombée.
Le juge en sait plus sur la famille, mais reste l'essentiel. Qui a fait quoi ? Hervé est-il allé chez Bernadette avec l'intention de la tuer, contrairement à ce qu'il dit ? Roxane a-t-elle, oui ou non, achevé cette femme ? Et quel a été le rôle de Pascal ? Est-ce que c'est elle qui a commandité l'expédition ? Le 3 avril 2015, c'est Roxane qui ouvre le bal dans le cabinet du juge.
Roxane risque gros depuis le témoignage accablant de sa sœur. Un témoignage corroboré, car les gendarmes ont interrogé ses copains. Et Roxane a trop parlé. Elle s'est confiée à l'un d'eux.
Roxane lui a indiqué que Bernadette était morte et qu'elle l'avait fini au couteau.
La procureure Stéphanie Félix se raconte.
Donc il est particulièrement choqué parce qu'elle lui déclare cela en rigolant. Donc sur le coup, il pense qu'elle plaisante, mais la situation est particulièrement grave. À ce moment-là, on se pose la question de savoir si effectivement Roxane a oui ou non porté ce coup au flanc de Bernadette Benahim et si Roxane va reconnaître ou pas ce geste-là. Lorsqu'elle est devant le juge, elle réalise quand même la gravité des choses, ce qu'elle risque surtout. Il y a également le fait qu'elle a un enfant, donc je pense qu'elle a peur aussi de ce qui peut arriver à son enfant. Elle indique qu'elle voulait faire peur à Bernadette, c'était l'objectif de cette expédition. Elle ne reconnaît toujours pas avoir porté ce coup de couteau et elle en veut en quelque sorte à son père.
Et sa mère ne vient pas à son secours. Elle continue à se défendre d'une complicité d'assassinat par des réponses alambiquées.
Elle va quand même concéder qu'elle détestait particulièrement Bernadette, qu'elle à un moment ou un autre, elle a voulu sa mort, mais que c'était que des paroles en l'air, en fait. Et elle va reconnaître un petit peu avoir, à force de parler sans arrêt de Bernadette, du ressentiment qu'elle éprouvait à son égard, pousser un petit peu la famille. Mais elle ne va pas trop s'engager. Sur le déroulement des faits en soi, elle reste vague et elle va s'abriter en expliquant qu'à cette époque, elle prenait des cachets. Elle ne se souvient pas, par exemple, avoir vu Hervé et Roxane partir et elle ne se souvient même pas que lorsqu'ils sont revenus, ils ont parlé du meurtre.
Le 9 avril, c'est au tour d'Hervé d'être entendu par le juge. Cette fois, il se montre plus loquace. Mais il fond en larmes quand il raconte la nuit du 28 juillet.
Hervé explique ce soir-là qu'il a échangé des SMS avec son épouse, quand bien même ils étaient au domicile, et qu'à un moment ils se sont disputés, et donc il décide de partir chez Bernadette. Il prend un couteau qui se trouve dans la buanderie, c'est un gros couteau qui fait 20-25 cm, et il prend Roxane avec lui, il l'emmène avec lui parce qu'il avait peur quand même que Bernadette se mette à l'embrouiller, etc. Donc il se sentait plus tranquille s'il était accompagné. Il est dans l'incapacité de dire combien de coups de couteau il l'a donné. Et en tout cas, ce qui le marque à ce moment-là, c'est le regard de sa fille. Il lit carrément la terreur dans sa fille, la terreur, la panique. Ça l'a beaucoup marqué. Ils repartent pour se débarrasser des vêtements du couteau. Il va jeter le couteau dans la rivière L'Argence. Il retourne à la maison et effectivement, il y a ce conseil de famille qui se tient où il leur indique qu'il faut garder une version commune dont il ne faudra pas s'écarter.
À l'entendre, c'est lui qui a frappé, lui seul, trois fois. Cherche-t-il à protéger sa fille ? C'est ce que le juge pense. Alors, le 19 janvier 2016, le magistrat organise une confrontation entre les trois mises en examen et la plus jeune, Audrey. Le maillon faible.
Ce jour-là, elle est en présence des membres de sa famille, en présence de son père, de sa mère, de sa sœur. Et donc, il faut avoir le courage de maintenir la version qu'elle a tenue jusqu'à présent. Il faut imaginer la pression qu'elle a. C'est en quelque sorte un conflit de loyauté vis-à-vis de sa famille. Elle va avoir peur, elle va expliquer que son père peut être violent, elle va donner des exemples. Elle se souvient qu'une fois, son père l'avait frappée à son domicile en présence de son petit ami il y a quelques années de ça lorsqu'il s'était énervé. Donc c'est vrai qu'elle craint, avec ce qu'elle a révélé, qu'il lui arrive des choses. En tout cas, Audrey va maintenir sa version, à savoir que Roxane avait porté ce coup de couteau au flanc, au côté droit de Bernadette, avant de s'enfuir ensuite avec son père.
Hervé, Pascal, Roxane, ils seront donc trois devant la cour d'assises du Var le 19 mars 2018. La mère, qui est renvoyée pour complicité d'assassinat, n'a pas fait un seul jour de prison. Elle comparaît libre. Le clan Robineau a volé en éclats. Tous les coups sont maintenant permis. Pour sauver sa peau, Pascal ne soutient ni sa fille, ni son mari. Elle a même monté un nouveau dossier d'accusation contre lui.
Hervé et Roxane, ce qui est assez frappant, on le voit rarement aux assises, ils sont sans arrêt, tête baissée, comme si la terre pouvait les absorber, ils sont recroquevillés, on va dire, on voit rarement leur visage, à tel point qu'on a l'impression que vous avez des boxes qui sont vides.
Maître Gaël Gangloff, l'avocat de Pascal Robineau.
À son procès, Pascal, on a l'impression qu'elle a 15 ans de plus, 20 ans de plus que son âge réel. Elle est très frêle. Elle a des problèmes de dos et elle arrive avec une plaque, une coque en plastique dans le dos. Ça, les jurés le voient.
Hervé, lui, est furieux. Pascal a engagé une procédure de divorce et surtout, elle a déposé plainte contre lui sur des accusations très lourdes et fausses.
Muriel Gestas, l'avocate d'Hervé Robineau.
Elle l'a accusé de viol, quand même, sur ses filles. Elle l'a accusé de viol sur ses propres filles. C'est gravissime jusqu'où elle a été. Enfin, elle a été très loin pour essayer de n'être qu'une victime.
Une accusation dont Hervé se défend avec fureur. L'enquête est en cours, mais le mal est fait. Cette plainte vient jeter une ombre sur le père de famille qui va contre-attaquer.
Le procès s'ouvre dans une ambiance très tendue. Les premiers mots que M. Robineau va dire au président, c'est qu'il se sent bien seul dans le box et que son épouse, qui est libre depuis 3 ans et demi, devrait l'accompagner dans le box.
Hervé soutient toujours sa fille en réaffirmant qu'il est le seul auteur des coups. Mais il charge maintenant Pascal.
Hervé dira que c'est sur ordre de son épouse qu'il serait monté, lui et Roxane, que c'est son épouse qui a obligé Roxane à venir avec lui pour que son père ne se débine pas et qu'il commette le crime.
Et tout à coup, Hervé Robineau lâche tout. En plein procès, il fait volte-face. Oui, il l'avoue, il est bien monté aux Issambres avec l'intention de tuer Bernadette. Oui, le crime était prémédité.
Hervé va reconnaître que la mention dans son téléphone portable sur son calendrier au 26 juillet, Barbox spécial fin, c'était bien une mention en relation avec la mort de Bernadette. Donc c'est vrai que c'était une véritable surprise. Et on se rend compte que là, il y a un rapport de force aussi qui s'instaure entre les trois accusés. Ce jour-là, on se rend compte que l'objectif, c'est en quelque sorte de sauver Roxane.
Mais qu'a fait réellement Roxane ? Elle l'a mis ou pas ce coup de couteau final ? Coincé dans un conflit de loyauté, l'accusé joue gros.
Maître Colline Martin est l'avocate de Roxane.
Il y a d'abord l'enjeu qui va concerner son fils, parce que dépend de ce procès le moment où elle va pouvoir le revoir. Et puis à la marge, il y a nécessairement l'enjeu qui va concerner ses parents. Que dire ? Est-ce que je dois dire ce qu'ils ont fait ? Est-ce que je dois dire à quelle hauteur ils l'ont fait ? C'est vraiment un procès qui est abordé de manière extrêmement complexe par rapport à la multitude des enjeux pour Roxane.
Elle est entre ses deux parents, mais elle finit par dire « Ma mère ment, ma mère nous a poussés à tout ça, et ça suffit, quoi. Il faut aussi que chacun assume. »
Maître Bernard Sivan, lui, est avocat de la partie civile.
Je pense que Roxane, enfin, ce jour-là, elle commence à prendre ses responsabilités, se rend compte qu'elle est en train de vivre un cauchemar et qu'elle n'est pas prête de revoir son fils. Et effectivement, elle met en cause sa mère, confirmant ce qui avait été écrit par les enquêteurs, c'est-à-dire confirmant le schéma et le parcours qui a mené à la mort de Bernadette Cogis.
Déjà mise en cause par son mari, voilà Pascal, dos au mur.
Pascal Robineau, elle sent bien que le piège se referme, parce que maintenant on a l'accusation. Il y a les deux accusés qui sont dans le box qui la mettent en cause, et non pas comme une simple exécutante, mais comme étant la tête pensante de cette opération criminelle.
Face aux propos de Roxane, Pascal est sommé de s'expliquer.
Lorsque le président demande à Pascal de réagir, eh bien, Pascal va dire qu'elle ne se souvient plus. Elle va tenir des propos incompréhensibles. Elle pleure pour un rien.
Vous lui posez une question, elle vous répond à côté, mais complètement à côté. On dirait qu'elle n'a pas entendu la question. C'est quelqu'un avec qui le dialogue est absolument impossible. Quand on lui parle des textos, quand on lui parle de l'organisation de la soirée, des faux selfies, elle dit non, c'est pas vrai.
On s'attendait à beaucoup plus de combativité de sa part, d'une réaction, et on a envie de la pousser pour qu'elle réagisse. Mais il ne se passe rien, elle subit entre guillemets ce qui se passe.
Là où elle fait une erreur, c'est que lorsqu'elle comparaît à la barre, elle est courbée, toute chétive, malade. À chaque pause, quand on fume dehors, elle retrouve sa superbe. Et les jurés sortent dehors. Et le voient, ça.
Le lendemain, c'est au tour d'Audrey, la plus jeune, de s'avancer à la barre. Elle a 22 ans, elle en avait 18 au moment des faits. En garde à vue, c'est elle qui avait livré aux enquêteurs la version ficelée par le conseil de famille, avant de passer aux aveux. Son témoignage est aussi attendu que redouté.
Roxane, elle appréhendait beaucoup les propos de sa sœur, parce qu'en plus, les relations entre les deux sœurs ne sont pas bonnes, ne l'ont jamais réellement été. Et Audrey va reparler de ce qui s'est passé, reparler des faits. Et c'est significatif, elle va expliquer qu'elle pense que sa sœur n'a rien fait.
Après le père, c'est la cadette qui retourne sa veste, en venant tout à coup défendre sa sœur. Audrey explique que Roxane a été manipulée par leur père. Quant à leur mère, elle ne leur a rien demandé. C'est Hervé et lui seul le coupable.
Elle va dédouaner sa mère lorsqu'elle va être entendue. Puis je pense qu'elle a un peu peur pour elle parce qu'elle sait très bien qu'elle a fait les selfies, elle sait très bien qu'elle a échangé les SMS. Elle n'est pas blanche dans ce qui se passe, hein, même si au final, elle n'a pas été poursuivie. Tout ce qu'elle peut raconter, pour moi, n'a aucune valeur.
Malgré le témoignage d'Audrey, Pascal reste en mauvaise posture. Son attitude fuyante a déplu. Au cinquième jour, l'avocate générale concentre son réquisitoire sur l'horreur et la sauvagerie du crime. Elle demande une peine de 30 ans pour Hervé Robineau, 15 ans pour son ex-épouse, Pascal, et 10 ans pour Roxane. C'est ensuite aux avocats de la défense d'essayer de sauver la tête de chacun de leurs clients.
J'ai essayé d'expliquer aux jurés comment cet homme-là en est arrivé là, mais oui, il a commis un acte horrible et oui, il devait payer, mais c'est pas que une personne horrible. On la vit, c'est pas blanc, c'est pas noir. Voilà, il y avait tout un contexte de vie qui faisait que, ben, pour lui, malheureusement, dans sa tête, à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres issues.
L'aspect toxique de cette famille, il était en premier plan de la défense de Roxane Robineau parce qu'il est incontournable pour expliquer dans quelles conditions elle se retrouve mêlée à tout ça. Alors qu'elle-même, dès le début, va dire qu'elle n'aurait jamais dû y être mêlée, que ça ne la regardait en aucun cas.
J'ai expliqué à la cour d'assises, avec les conclusions du psychiatre, qu'effectivement, au moment des faits, ma cliente, compte tenu de l'absorption très importante de médicaments, n'avait pas toute sa tête et qu'elle ne se rappelait pas d'avoir donné un quelconque ordre d'aller tuer Bernadette.
Le 23 mars 2018, dans la soirée, la cour d'assises rend son verdict. Hervé Robineau est condamné à 20 ans de prison pour assassinat. Pascal à 10 ans pour complicité, une peine qui a tenu compte de l'altération de son discernement au moment des faits. Arrivée libre au procès, elle reçoit la sentence comme un coup de massue. Roxane, elle, prend 7 ans. Pour complicité également, après 4 ans de détention, elle est donc libérable rapidement. Malheureusement pour Roxane, sa mère, Pascal, fait appel. Et dans la foulée, le parquet général aussi. La famille Robineau retourne donc aux assises à Aix-en-Provence le 21 octobre 2019. Hervé Robineau est condamné à la même peine, 20 ans. En revanche, la cour se montre beaucoup plus dure avec les deux autres accusés. La mère prend 16 ans. Quant à Roxane, sa peine est doublée. Ce sera 14 ans.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'histoire de la famille Robineau. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode.